France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Dose France.
Bah moi, après mes études, je quitterai Nevers et j'irai dans une grande ville. Paris, Marseille, c'est tout, les deux grandes villes. Dijon, j'aime pas parce que c'est proche de Nevers et j'aime pas trop Nevers.
Ouais, c'est ennuyant.
C'est ennuyant parce que par exemple, quand on regarde Paris, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de centres commerciaux. Tandis qu'ici, bah, on n'a rien et on sort en ville. Puis,
En vrai, il y a des hauts et il y a des bas. C'est pas top.
Qu'est-ce qui vous manque ici?
What?
Il y a tout. Il manque tout. Il manque les centres commerciaux. Ouais. Par exemple, je sais pas c'est dans quelle ville, mais il y a un grand marché le mercredi, alors que nous on a un tout petit marché le jeudi. Vous voyez ou pas? Ça veut dire moi ça me dérange. Et même il y a rien à faire. Par exemple, les parcs d'attractions, c'est quoi? C'est la foire du trône. À Paris il y a, tandis que ici on a et en plus il y a que 3 manèges. Et en plus ça coûte cher. Ils ont le culot de mettre cher comme si c'était bien. Enfin bon, il manque ça et voilà.
Dans la grande ville, en fait je sais pas, c'est la liberté. La liberté, les activités, les restaurants. J'adore découvrir de nouvelles choses. Et la grande ville, c'est 1 euro, il y a plein de choses. Toujours découvrir des choses ici quand même. Mais juste qu'il y a plus de choses à découvrir dans la grande ville.
Il manque tout, et surtout les centres commerciaux, les restaurants et les manèges. C'était mi-mars à Nevers, venu faire une intervention auprès d'élèves du lycée Raoul Follereau. Me voici tenté de leur tendre un micro pour qu'ils me racontent ce que signifie avoir 17 ans dans la Nièvre ou le Cher. Ce jour-là, c'est la date limite des candidatures Parcoursup et ils sont tous et toutes assez angoissés par la nécessité de partir pour continuer leurs études ou trouver un travail, s'ouvrir au monde, comme ils peuvent parfois le dire. Grandir en campagne, est-ce forcément une histoire du rien, du vide et du manque, comme on tend souvent à le décrire? Est-ce fatalement se sentir attiré par la grande ville ou tout simplement est-ce une histoire d'obligation et de non-choix? Devoir étudier, devoir travailler, devoir s'en sortir, devoir s'émanciper et gagner son autonomie dans des territoires qui n'offrent pas toujours toutes les opportunités possibles à de jeunes adultes. Et une fois parti, que se passe-t-il quand on revient? Est-on devenu un presque étranger au sien? Ou reste-t-on malgré tout toujours un peu de là? Au sommaire de Douce France, quand il faut partir, avoir 17 ans en campagne, venez, je vous emmène. Bonsoir Pauline Rochard.
Bonsoir.
Vous êtes consultante, conférencière, spécialiste des mutations du travail. Vous avez publié « Ceux qui reviennent, quitter Paris pour retourner vivre dans son territoire d'origine ». Ça a paru aux éditions Payot cette année, en 2025. Bienvenue à vous. Et Juliette Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice, éditrice et vous avez publié « Pecnode » aux éditions Cambourakis, ça a paru en 2024. Et je suis ravie de vous recevoir toutes les deux parce que c'est de cela dont on va parler ce soir. « Partir ». Et revenir, justement. On entendait ces jeunes gens, donc qui ont tous 17 ans, du lycée Raoul Follereau à Nevers, qui nous disent, finalement, c'est une histoire du rien, du vide et du manque. Est-ce que ça, c'est ce que vous avez vécu, Juliette, vous qui avez grandi près de Rouen, à 30 km de Rouen?
Pas du tout, à 30 km de Rennes.
De Rennes. Comment j'ai pu confondre?
Oui, c'était complètement ce que j'ai ressenti. Je pense que c'était vraiment une évidence, pas que pour moi, pour nous à cet âge-là, qu'on grandissait dans un territoire vide, de rien effectivement, et que le plus désirable, c'était effectivement d'en partir.
Pauline, qu'est-ce que ça voulait dire aussi pour vous à 17 ans? Vous avez grandi à côté de Dunkerque.
Oui.
Et c'est Wormhout, je voudrais pas dire de bêtises,
vous
c'est bien,
bien
Wormhout, voilà, parce que dans votre livre, vous dites que sur un malentendu, quand vous avez dit Wormhout, des gens ont compris Noirmout, Noirmoutier, donc c'est bien Wormhout à côté de Dunkerque. Est-ce que vous êtes retrouvée dans ce que ces jeunes nous ont dit?
Bah oui, pareil, absolument. Alors Wormhout, c'est une petite commune de 5000 habitants, donc c'est pas tout à fait le tout petit village. Ça reste quand même une commune, voilà, d'une taille plutôt petite mais moyenne. Mais oui, il y avait cette volonté de quitter la petite ville et d'aller d'abord à Lille, parce que c'est là que, en fait, quand on se projetait pour les études, c'est là qu'il y avait l'offre universitaire. Et puis il y avait aussi cette attractivité des plus plus grandes villes. Moi, ce qui a résonné, c'est la première interviewée qui disait Paris ou Marseille. Par contre, Dijon, ça m'intéresse pas. Enfin,
c'est trop proche.
Il y a vraiment, ouais, il y a encore cet attrait des métropoles, comme si c'était dans les métropoles qu'il se passait des choses, quoi. Et les villes moyennes, moyen.
Parce que Dunkerque, pour vous, c'était trop moyen. Il fallait aller à Lille, par exemple.
Oui. Dunkerque, à l'époque, alors ça a beaucoup changé. Hein. C'est une ville qui est en transition et en 20 ans. Enfin, la ville que j'ai quittée à mes 18 ans, c'est plus du tout celle que j'ai retrouvée quand je suis revenue à 35. Elle a vraiment changé. Mais oui, je me projetais pas à Dunkerque. J'avais pas l'impression que c'était la ville de l'émancipation. C'était pas la ville de la réussite. Parce qu'en fait, il y avait ça aussi, cette idée, quand on a 17-18 ans, on a le sentiment que pour réussir, il faut partir. Donc oui, c'était plutôt la métropole qui m'attirait.
Mmh. Juliette ?
Non, alors moi, pas du tout. Moi, j'avais envie d'aller dans une ville, mais plutôt une ville... Moi, mon rêve, c'était Rennes, et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée faire mes premières années d'études à Rennes. Je pense qu'il y avait quand même aussi quelque chose d'une forme de chauvinisme breton, c'est-à-dire fallait rester en Bretagne, quoi. Et donc, pour moi, en plus, c'était très important que ça ne soit pas Nantes, mais bien Rennes. Et quand je suis finalement allée à Paris, c'était pour les études, mais ça a été un arrachement pour moi. La première année à Paris, ça a été extrêmement difficile. Je rentrais dès que je pouvais. Pendant tout un moment, je me disais, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à m'habituer. À la base, en les entendant, ces jeunes, je me disais, on m'aurait posé la question à 17 ans, je pense que j'aurais eu quand même quelque chose d'un anti-parisianisme. J'aurais dit, non, moi, à Paris, c'est sûr que non. Enfin, il y avait quand même cette idée de la ville, oui, mais quand même pas la grande ville, puis surtout pas la ville dominante. Enfin, voilà, la ville par excellence. Donc, il y avait quand même un petit peu ça. Et puis après, l'arrivée à Paris, ça a été difficile parce que, moi, c'est des choses qui continuent d'être difficiles pour moi quand j'arrive ici, comme tout à l'heure. Je prends le métro, la violence sociale, les inégalités, le monde, la surstimulation sensorielle. C'était des choses qui étaient vraiment, pour moi, au début, très, très difficiles.
Mmh. Pauline ?
Eh ben moi, ce que tu dis, Juliette, ça résonne beaucoup avec les témoignages que j'ai recueillis pour mon livre, parce que j'ai interrogé du coup des personnes qui sont revenues vivre dans leur territoire d'origine, mais aussi et surtout ceux qui en sont restés, pour voir comment ceux qui restent percevaient ceux qui reviennent. Et j'ai en tête là le témoignage de plusieurs jeunes qui m'ont dit moi, j'ai jamais voulu bouger parce que effectivement Paris c'était plutôt une ville que je trouvais hostile. Enfin, je me voyais pas en fait dans cette grande ville là. Pour les raisons que tu évoques. Et puis il y a autre chose, c'est que il y avait aussi la volonté qui était déjà très conscientisée de ne pas quitter leurs attaches affectives. Mm-hmm. Et le fait de s'éloigner trop, enfin de trop s'éloigner de sa famille, de ses proches, de ses amis, du club de foot, du club de rugby,
etc. Vous
parlez,
Pauline, quasiment d'une forme d'exil en fait, au même titre qu'un exil d'un pays étranger vers l'autre.
Bah, en fait, la mobilité, et là on parle de mobilité étudiante, quand on a 17-18 ans, c'est un moment à la fois de rupture et un moment d'ouverture. C'est un peu quelque chose d'inédit, parce que oui, il y a une forme d'arrachement au sens où on s'émancipe et on quitte de fait son cocon familial, ses repères, tout ce qui nous semble familier et qui du coup est rassurant. Et du coup, il y a un peu ce sentiment d'exil, et parfois aussi, c'est que il y a aussi un choc de classe quand on arrive dans des grandes métropoles et a fortiori comme Paris, comme tu le dis, la ville dominante, on se sent pas adapté. En fait, on a l'impression que c'est un univers qui nous est totalement étranger. Il y a plein de choses qu'on connaît pas en fait. La taille de la ville, ça c'est évident, mais il y a aussi plein de codes.
Oui. Et puis j'imagine aussi les temporalités. Mais Juliette Rousseau, est-ce que ça résonne ?
Moi, j'ai mis du temps à comprendre, et je pense que là, il y a quelque chose que j'ai fini par déconstruire avec le temps, c'est-à-dire que ces attachements-là à des saisons, à une temporalité, à un accent, à des restes de langue, ne sont pas des choses qui sont valorisées. Et donc, on apprend très tôt, justement, à ne pas les prendre en considération. Et moi, je repensais, là, en vous écoutant, à ce moment donc où j'arrive à Paris, où c'est extrêmement difficile. En plus, j'habite dans un appartement tout petit, hyper glauque. Et à ce moment-là, c'était inenvisageable pour moi. Je n'avais pas le droit de dire, finalement, c'est trop dur, j'y arrive pas. Parce que c'était un peu ma responsabilité, c'était mon devoir. Mmh. Qui n'a pas été celui de mes parents par ailleurs, hein, de me faire un peu violence et aller au-delà de mes attachements. Mais ce que ce que j'ai fini par déconstruire, c'est qu'en fait, ce qu'il a fallu taire en moi, ce qu'il a fallu mettre de côté, c'est-à-dire toute cette relation, tous ces affects liés au lieu, ça a été un coup énorme. Et finalement, c'est aussi, je pense, une déconnexion ou en tout cas quelque chose dont il faut se couper, qui va de pair avec un certain système de représentation, un système économique, un système de valeurs aussi, de hiérarchie entre les cultures, entre les langues. Enfin voilà, vous voyez bien ce que je veux dire, je crois.
Alors justement, on y reviendra, mais je vous propose de replonger dans les propos de ces jeunes gens. On retourne donc au lycée Raoul Follereau de Nevers. Il y a quelques semaines, par un après-midi pluvieux, la discussion donc s'engage avec ces jeunes et très vite, je leur propose de me raconter ce que signifie pour eux vivre dans la Nièvre, leur quotidien, leurs difficultés, leurs aspirations. Florilège par Margot Page.
Nevers, j'aime pas trop, je vous avoue. Genre, je préférais la grande ville parce que, j'aime l'univers où il faut se démarquer des autres, avoir un bon charisme, etc. Vous voyez ? Enfin, c'est ça en fait qui me plaît, c'est cet univers, ce challenge.
Qu'est-ce qui te convient pas du coup ici ? Qu'est-ce qui te manque ?
Le fait que c'est trop petit et il manque un truc de. Par exemple, la liberté d'esprit des habitants, etc. On va souvent nous dire que vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. Alors que je pense que dans les grandes villes, je pense que c'est la nouvelle ère des jeunes, etc. Vous voyez. Alors qu'ici, ils sont un peu campagnards, genre, je mets entre guillemets, mais enfin voilà.
Moi, je m'appelle Candice et je suis élève de terminale au lycée Raoul Follereau à Nevers. Bon, moi, sachant que je viens du Cher, pardon, je vois pas tellement de différence. C'est un peu les mêmes climats, la campagne, les services publics qui sont pas les plus nombreux, hein, on va être honnête. Et donc voilà, après, moi, j'ai toujours vécu là-dedans. Donc, j'ai jamais connu une situation où j'avais accès à beaucoup de choses très rapidement, etc. Donc, je ressens pas véritablement de manque, mais je constate clairement qu'il y a des soucis liés à l'environnement dans lequel on vit, quoi. C'est compliqué de trouver des rendez-vous avec des spécialistes, c'est compliqué de passer des scanners, des IRM. Enfin, moi, avec le sport que je fais, ça m'est déjà arrivé de me blesser pour trouver des rendez-vous. Faut attendre super longtemps. Après, voilà, on a grandi là-dedans, on y est habitué, donc voilà. Mais c'est pas pour ça que on doit le tolérer et il faut qu'on fasse des choses pour que ça change. C'est pas facile, quoi. Mais après, c'est pas l'ennui, il y a des choses. Il y a toujours des activités sportives, il y a des activités culturelles. Tout est perfectible et on pourra toujours trouver mieux et faire mieux, mais c'est pas rien. Et c'est une erreur de dire que c'est la diagonale du vide, ça c'est certain. Puis il y a plein de gens, il y a plein de talents qui viennent de là et qui ont fait des grandes choses. Et même en fonction du métier que je ferai, je pense que je vais être amenée à devoir vivre dans une grande ville. Mais clairement, ça ne m'attire pas. Hein. Le monde... Moi, je passe une journée dans Paris, je reviens, j'ai une migraine pas possible. Hein. C'est terrible. Hein. Vraiment, je pense que je fais une allergie. Mais bon, ça va passer vu qu'il n'y a pas tellement de choix.
Paris, c'est vraiment, au niveau culturel, la chose qui me manque le plus dans la Nièvre. Parce que... En soi, ça me dérangerait pas non plus. J'aimerais bien, par exemple, travailler dans les grandes villes et puis me reposer plus à la campagne. Je suis contente d'avoir eu le permis, là, parce que je vais pouvoir un peu plus me débrouiller, on va dire. Enfin, j'ai hâte de conduire vraiment seule.
Qu'est-ce que tu vas faire avec cette voiture ?
En vrai, je pense aller plus... je suis très académique. Moi, j'aimerais bien faire des grandes études. Donc, forcément, j'aimerais bien aller à la BU de Nevers pour plus lire aussi. J'aime bien lire. Et sinon, voir mes amis à Nevers ou aller faire du shopping à Bourges.
Je trouve que le Cher est une région attractive, notamment à Bourges, on a une école d'ingénieurs, on a plusieurs pôles d'enseignement supérieur à Vierzon, à Bourges aussi, quelques-uns à Saint-Amand, mais proportionnellement, je veux dire à son nombre d'habitants, Nevers, je trouve, est une ville quand même très dynamique parce que 33 000 habitants, il y a quand même l'ESAB, qui est la seule école artistique de Bourgogne, donc qui attire des élèves jusque dans le Jura. Nevers, ça me plaît, il y a quand même des choses à faire, il y a quand même un bon centre-ville. Je veux dire, moi, quand il n'y a pas de dynamisme, je crois que c'est pas possible qu'il n'y ait pas de dynamisme. Parce que ça, quand il n'y a pas de dynamisme, c'est quand il n'y a rien, et quand il n'y a rien, c'est seulement dans la ruralité profonde, comme dans les villages de moins de 3500 habitants, par exemple. Mais à Nevers, il y a quand même du dynamisme. Et je trouve qu'il ne faut pas trop sous-estimer la capacité de Nevers à avoir un rayonnement, à être attractif quand même. Voilà.
Tu veux faire quoi comme étude, toi ?
Bah, en fait, je suis un peu mitigée. J'aimerais bien faire du journalisme pour être du coup présentatrice, mais en fait, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment les capacités ? Ça, j'ai.
Pourquoi tu les aurais pas ?
C'est une très bonne question. C'est un peu genre, moi, je voulais un peu parler sur cette problématique, en fait. C'est parce que moi, en fait, je me sentais plus défavorisée parce que je venais d'un quartier, j'étais une femme de couleur. Exactement, on mettait une étiquette et je me suis dit, c'est un peu ça qui, des fois, baissait mon ambition. Genre, moi, je viens du banlieue et je veux dire, on dit toujours, c'est la cité, il y a plein de choses qui se passent. Alors que je trouve, je suis pas tellement d'accord sur tout ce qu'on dit du banlieue. En fait, il y a tellement de choses enrichissantes, de personnes enrichissantes, mais je trouve c'est pas comment c'est exploité, c'est mal exploité aussi. Je trouve qu'il y a tellement de choses d'informations, genre sur les quartiers, comment on parle de nous, c'est pas la meilleure chose. Je trouve en plus, c'est encore plus cette étiquette. Je viens de la Nièvre, en plus, je viens d'un quartier. Et je trouve que des fois, c'est pas pour autant qu'on a, je pense, moins de potentiel ou autre, mais aussi, c'est des choses qui sont un peu dures parce que c'est un peu, c'est encore petit. Ils vont pas assez chercher, je trouve, les personnes pour qu'il y ait encore un plus grand réseau qui s'ouvre.
Bah, du coup, moi, je m'appelle Jennifer, j'ai 16 ans et bientôt 17 ans. Et pour moi, vivre dans la Nièvre, c'est assez compliqué. Parce que rien que pour trouver un stage, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de recherches. En troisième, j'ai fait une trentaine de demandes. Et donc, c'est super compliqué. Et surtout dans les métiers de la finance, personne ne voulait me prendre. J'avais 14 ans. Donc, partir à 14 ans sans personne, faire son stage, c'est trop compliqué. Aussi du coup pour les études après c'est si on veut pas faire dans la médecine ou ingénieur c'est super compliqué parce que c'est niveau déjà il faut se séparer de sa famille, séparer de son sport, se séparer de toute sa vie en soi et du coup c'est un peu compliqué mais aussi c'est des écoles privées donc faut savoir si on a envie de s'endetter avant de commencer notre vie en fait, de faire un prêt étudiant, est-ce qu'on est prêt à ça, est-ce qu'on est prêt à le rembourser. En fait, je sais pas si ça vaut le coup ou si... je sais pas.
Et toi, tu voudrais vivre où, dans l'absolu ?
Alors, vivre où, je ne sais pas, mais en tout cas, dans un endroit où il y a du travail. Parce que sans travail, on peut pas vivre.
Je me lève à 5h10, j'ai un train à 6h10, j'ai une heure de train tous les matins et tous les soirs. Les soirs où je finis à 18h, mon train il est à 19h35, donc je rentre à 20h10 chez moi. Et le lendemain, 6h le train, et c'est comme ça toute la semaine. Là, ce soir, je vais rentrer à 18h, je sais que je vais manger, faire ma douche, j'ai pas le temps pour mes devoirs en fait. Soit je le fais dans le train, soit je le fais pendant ma pause du midi, donc je mange pas au self, je mange au CDI en même temps de faire mes devoirs. Et le soir, je rentre à 20h, je suis déjà en train de dormir parce que je suis vraiment épuisée. Et ça, c'est un peu compliqué quand je m'endors dans les cours et qu'on me dit « Ah, mais tu dors pas ?» Si, je dors, j'en peux plus, en fait, c'est tout.
Voilà pour ces instantanées de paroles de lycéens de Nevers. On a entendu beaucoup de choses, Pauline Rochard, Juliette Rousseau. Quel fil vous avez envie de tirer, Pauline ?
Moi ce qui m'impressionne, enfin c'est pas que ça m'impressionne, c'est attendu, mais c'est que ces jeunes ils considèrent vraiment que la ville c'est l'espace de la liberté et c'est l'espace du choix. Enfin ce que j'entends c'est que à la fois en termes d'offres de consommation, ils parlent des bars, des restaurants, des centres commerciaux, mais aussi des études. Enfin effectivement quand on veut faire des études, il y a plus de choix dans les grandes villes et enfin
c'est l'espace des opportunités versus la ruralité, enfin la campagne ou tout ce qui est non urbain, parce que pour le coup c'est compliqué aussi de définir de quel espace on parle, puisque c'est défini en creux. Ce serait l'espace du non choix, quoi.
Plutôt l'espace, enfin c'est en tout cas c'est comme ça que visiblement ils le vivent, c'est le vécu qui parle. Et puis après il y a des choses objectives aussi, enfin faut quand même rappeler que les bacheliers qui vivent dans les zones peu denses, 1 sur 2 vont bouger pour leur poursuite d'études, et que oui il y a une déconcentration de l'offre de l'enseignement supérieur, mais que les 3/4 de l'offre se retrouvent dans les 30 plus grandes villes de France. Donc de fait si on veut poursuivre des études supérieures, on est obligé de bouger, on est obligé de partir. Et puis autre chose qui m'a fait réagir, c'est un moment, quelqu'un a dit ici c'est petit, c'est étriqué. C'est comme si c'était le milieu qui était petit, parce que oui, visiblement, enfin Nevers c'est une petite ville. Enfin,
bon, elle fait quand même 35 000 habitants.
Oui, mais comparé à
une préfecture, quoi.
Oui, mais comparé aux villes dont il parle, ils se sentent plus petit. Et puis il y a aussi l'histoire des mentalités, enfin comme si en fait c'était étriqué aussi d'un point de vue des mentalités, et on a du mal encore aussi à sortir de ça, de forcément la ville serait l'espace de l'ouverture, de l'accueil, de la mixité, et du coup en opposition les ruralités ou les petites villes, ça serait le conservatisme, moins de, et ça, moi dans mon enquête je l'ai aussi entendu, parce que il y a des jeunes qui ont aussi voulu quitter leur petite ville pour découvrir autre chose, se confronter à d'autres visions du monde, à d'autres modes de vie. Mais quand, une fois qu'ils ont grandi, ils en reviennent un peu de ça.
Il y a une capacité, une fois qu'ils ont découvert autre chose, de réinterroger les stigmates, parce qu'on en entend beaucoup, hein, des stigmates autour de cette identité estampillée campagnarde, ce que vous disiez à l'instant sur cette petitesse, ce manque d'ouverture. Et il y a une concurrence des stigmates quand on entend cette jeune femme qui se dit non blanche, qui vit dans une cité et qui est par ailleurs à la campagne, si je puis dire, même si Nevers n'est pas la campagne, mais vivre en banlieue de Nevers quand on est une jeune fille noire, on imagine à quel point tout ceci vient s'additionner en termes de stigmates. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Juliette, cette incapacité qu'on peut avoir quand on est pourtant issu de ce milieu pour lequel il y a aussi beaucoup d'attachement, et on l'entend aussi dans leurs témoignages, de s'interroger sur les stigmates qu'on leur porte?
Mais en fait, le fait est qu'on n'a pas les outils pour pouvoir les interroger, ces stigmates, dans le sens où la majeure partie des représentations qui nous sont offertes quand on est des adolescents, des adolescentes dans la ruralité viennent tout à fait confirmer les stigmates. Je pense même le langage qu'utilise un des jeunes qui s'exprime, qui pour moi est plutôt le langage qu'on va entendre dans les institutions,
sur
les collectivités. Exactement, le dynamisme opposé aux campagnes profondes, ça c'est des termes qui sont très courants, donc qui viennent dire finalement que les villes sont dynamiques alors que les campagnes ne le seraient pas. Quand on vit dans une campagne agro-industrielle comme la mienne, je vous assure que c'est très dynamique. Hein. Après, ça veut dire que la question, c'est de quel dynamisme on parle, évidemment. Et alors, moi, je le vois d'autant plus en tant qu'autrice de littérature. En fait, on voit bien comment on a tellement peu de représentations de ces espaces de campagne, de ruralité, que, alors qu'il s'agit de littérature, de sociologie, à chaque fois qu'une voix émerge pour enquêter ou parler en son nom propre d'une campagne, on va très généralement dans le débat public considérer qu'elle a parlé pour toutes les campagnes, comme si toutes les zones rurales, et encore une fois il faudrait définir ce que ça veut dire zone rurale, c'est comme si toutes les zones rurales pouvaient être assimilées les unes aux autres, comme si tout ça c'était à peu près le même espace, alors qu'évidemment
c'est tout ce qui n'est pas urbain finalement.
Exactement, et comme vous l'avez dit, c'est tout ce qui est en creux de la ville, donc je trouve que c'est très compliqué de construire une image positive de soi quand l'image générale de son territoire est produite depuis l'extérieur du territoire, mais assimilée en général par le territoire lui-même, est une image négative. Et après, alors je pense qu'il faut penser effectivement ça en contexte, c'est-à-dire de quel contexte s'agit-il, à quoi, enfin comment a été construit ce territoire. Moi, dans le cas de la campagne de laquelle je suis issue, qui est une campagne donc agro-industrielle, pour moi, il est évident qu'il y a un lien très 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 direct entre l'imposition sur le temps très long de ce stigmate pour les populations rurales, et la mise en situation d'extraction de ces territoires. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'à un moment donné, on arrive à asseoir l'idée que ces territoires ne sont rien, qu'ils ne valent rien, que les gens qui les habitent ont certainement mieux à faire ailleurs quand ils le peuvent, ou rester pour produire, c'est-à-dire ce qui est attendu d'eux. C'est bien parce qu'on pense ça de ces territoires qu'on peut ensuite les mettre à sac.
Et ce que vous racontez dans Pecno de manière très poétique, c'est la manière dont justement tous ces territoires qui ont bercé votre enfance ont depuis été, comment dire, fracturés, percutés par cette dimension agro-industrielle, comme les haies ont disparu, comme la biodiversité a disparu. Et dans cette dimension d'emprise d'une forme de capitalisme extractiviste, tout ceci n'est même plus la campagne. Vous êtes revenu à la campagne et finalement ce n'est même plus la campagne.
Et pourtant, elle se vit, c'est une campagne qui se vit comme étant la plus campagne, je sais pas comment dire, la campagne maximum, quoi, comme si on pouvait pas faire. Je pense que c'est important de comprendre dans ce système de représentation. Je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas dans la campagne que j'habite, qui est vraiment important à comprendre, c'est que l'ordre social, parce qu'il y a un ordre social, et j'en parle parce que je pense que cette question de partir pour se libérer. Bon, alors d'autant plus quand on est une jeune fille, c'est une vraie question. C'est quand on parle de mentalité étriquée, par exemple le poids de la réputation, etc. C'est des choses qui existent vraiment et qu'effectivement à un moment donné.
Et ce besoin d'anonymat permet aussi une forme d'émancipation.
Complètement. La ville, c'est l'anonymat. La ville, c'est la mobilité. C'est autant de choses qui sont pas permises quand on vit à la campagne.
Pauline. Oui, vous vouliez réagir.
Mais ça, c'est vrai que c'est effectivement une réalité et que quand on a 16-17 ans. On aspire à s'en extraire un peu de ça, du contrôle social assez fort qui s'exerce sur nous. On a vraiment le sentiment que nos réputations nous précèdent parfois en fonction de vos parents, vos grands-parents. Enfin, tu es d'abord la fille de un tel ou la nièce de Bidule avant d'être
puis la femme
toi.
De
puis la femme de exactement.
Parce que vous parlez de cette conjugalité précoce.
Oui, et très tôt, on attend à ce que tu te mettes en couple et que tu suives le sillon et que tu fasses ce qui est attendu de toi. Donc ça, c'est vrai que quand même, ce contrôle social, il s'exerce davantage sur les jeunes filles. Ça, c'est Yael Amsalem-Mingui qui en parle très bien dans Les filles du coin et que je pense qu'on est toutes à avoir ressenti ça. Donc les représentations aussi, je crois, elles bougent en fonction des âges de la vie. Moi, j'ai quand même constaté que cette transition de la fin de l'adolescence à l'âge adulte, c'est pas si étonnant qu'on ait envie de vivre autre chose, de s'extraire de son chez-soi pour aller découvrir un ailleurs. Je crois que ça, c'est un besoin assez universel. Et par contre, passer 30-35 ans, je dis cet âge-là, mais ça pourrait être plus pour d'autres, mais je pense qu'on perçoit aussi nos lieux de l'enfance différemment parce qu'on a, en fait, on n'a pas les mêmes aspirations.
Et peut-être parce qu'on a réinterrogé ces stigmates.
Exactement. Complètement. Ouais, et qu'on a réinterrogé le fait que... Parce que la question, c'est est-ce qu'on part parce qu'on en a envie ou est-ce qu'on part parce qu'on y est contraint. Évidemment, c'est pas binaire.
Non,
réussir à comprendre qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui a été de l'ordre de l'envie et qu'est-ce qui a été de l'ordre de la contrainte.
Et c'est pour ça que quand on choisit de revenir, moi, je trouve que c'est une démarche très consciente. Enfin, moi, les gens que j'ai interrogés dans le livre, ils ont réinterrogé tout ça, en fait. Les raisons de leur choix, pourquoi ils sont partis, comment ils ont vécu le fait d'avoir vécu loin de chez eux.
Presque.
Ce déracinement, etc. Pourquoi ils sont attachés à chez eux. Moi, ce qui m'avait, par exemple, beaucoup questionnée, c'est que j'avais l'impression d'être... quand j'étais à Paris, je revendiquais assez fort mon identité régionale du Nord.
Flandre.
Ouais, de Flandre, j'étais assez fière de ça. Enfin, j'aimais bien en parler. J'avais toujours envie de que les gens découvrent mon territoire, ses traditions, sa langue. Tu parlais des accents tout à l'heure et c'est vrai, j'en jouais un peu. Et quand je revenais dans le Nord, parce que je revenais hyper régulièrement quand j'habitais à Paris, j'étais plutôt à mettre en avant ma nouvelle identité d'urbaine ou de parisienne. Et cette espèce de le fait de naviguer tout le temps comme ça entre deux eaux, c'était propre à ceux qui avaient bougé. Mais du coup, ce qui pouvait paraître un peu comme un stigmate à 17 ans, ça devient presque une force à 35.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
Emeline, à 27 ans, elle a quitté la Nièvre à la vingtaine pour ses études, elle aussi. De retour pour un stage, elle me raconte comment elle aspire à se construire un avenir, ce qui nécessitera sans doute, encore une fois, de quitter sa région et ses proches.
Donc je suis revenue dans la Nièvre pour mon stage. C'était comme si rien n'avait changé. En même temps, tout avait aussi un petit peu... ça avait un peu changé aussi quand même. Et puis le fait de revoir aussi d'anciennes connaissances, etc., qui eux n'avaient pas eu la chance ou pas de partir. Après, donc, j'ai réfléchi, après le stage, si j'avais envie de rester ici. Au début, oui, parce que on trouve forcément des avantages à vivre aussi en milieu rural. C'est chouette, c'est beau, c'est calme. Il y a quand même des choses qui se font. Il y a aussi proximité avec la famille, l'immobilier aussi, ça vaut le coup. Il y a pas mal de choses. Et puis oui, donc après professionnellement, pour moi, c'est assez bouché ici. Alors après, c'est peut-être aussi dans mon secteur, puisque c'est encore quelque chose qui est en développement, et c'est aussi plutôt dans des grosses organisations, dans des grosses entreprises. Aujourd'hui, la RSE, le développement durable, ces questions-là, c'est... En somme, il n'y a pas de...
pour moi. En fait, ce qui est terrible dans ce que tu dis, c'est qu'on pousse la jeunesse nivernaise à aller faire des études, et finalement, il n'y a pas de possibilité de retour, quoi.
Oui. Je m'étais dit aussi à un moment quand je suis revenue, je me suis dit c'est chouette, j'ai pu apprendre plein de choses dans d'autres villes, j'ai pu me nourrir de plusieurs initiatives qui se font ailleurs et tout. Et j'ai eu à un moment donné après mon stage, j'ai eu l'espoir de me dire ok, peut-être que je peux apporter ça ici. Mais oui, c'est vrai que du coup ça reste compliqué, parce que même si on veut apporter quelque chose, ça reste quand même assez compliqué. En fait, quand on grandit en milieu rural, on a aussi, on prend l'habitude, je pense, de rendre visite régulièrement à sa famille. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait manqué quand je suis partie. Le fait de pouvoir dire à ma mère, j'arrive, même à mon frère qui est devenu papa. Il y a ce manque-là aussi qui existe. Après, je sais pas si la ruralité fait partie de moi. J'adore la campagne. C'est vrai que j'adore. Quand je vivais à Lyon, j'adorais revenir ici. Pour le calme, les balades en forêt, les balades à vélo, ça c'est vrai que c'est chouette. Ça a aussi des contraintes, parce que oui, au niveau des transports c'est compliqué, donc c'est tout plein de nuances, mais c'est vrai que je pense que de grandir en milieu rural, en tout cas pour moi, ça m'a donné plus envie de voir le monde, en fait, de voir ailleurs. Moi, je regretterais absolument pas d'être partie. Et quand je vais aussi toucher ce sujet-là, mais on a le côté extrême aussi, racisme en milieu rural. Quand je reviens et que je revois des jeunes gens de mon âge qui ne sont jamais partis, c'est souvent le même discours. Il y a ça aussi qui me pousse à partir, d'ailleurs. C'est vrai que c'est compliqué, en fait. Mais parce que il y a aussi toutes les offres de culture, d'études, d'éducation, etc., qui sont limitées, quoi. Mais oui, je pense que c'est bien, en tout cas, aussi de partir et peut-être de revenir.
C'est bien de partir, c'est bien de revenir. Pauline Rochard, c'est justement l'objet de votre livre, « Ceux qui reviennent, quitter Paris pour retourner vivre dans son territoire d'origine ». Emeline, elle nous le dit, finalement, ça veut dire des sacrifices. C'est soit je quitte le travail et mes capacités, en fait, à poursuivre une carrière, soit je retrouve mes proches, les miens. Mais j'ai quand même aussi un peu changé.
Ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est que pour elle, le retour implique une forme de renoncement. Et ça, c'est vrai qu'on s'est tous posé la question. Enfin, ceux qui sont revenus de manière très concrète, on se pose la question de l'emploi et du travail. Il faut bien vivre. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, si on a la chance de continuer à exercer son métier, on change de taille de structure. Donc, on va passer d'une grande organisation à une PME, de grandes structures à des plus petites entreprises. Et s'il n'y a pas cette possibilité, ça implique parfois des reconversions. Et c'est des choix qui ont beaucoup de conséquences, potentiellement, de se reconvertir, de renoncer à ce pourquoi, par exemple, on a poursuivi nos études, etc. Donc c'est vraiment...
Ça représente quand même du monde, pardon, je vous coupe, mais les ménages parisiens qui s'installent en province sont 27% à retourner dans leur région de naissance, d'après une étude de l'INSEE qui est apparue en 2021. Donc pour tous ces gens-là, il y a une dimension sacrificielle, presque, en fait.
C'est assez ambivalent, c'est ce qu'elle raconte. Elle dit que c'est vraiment une histoire de nuances, et je pense que c'est vraiment très juste de le poser dès le départ. C'est que y a plein d'aspects positifs. Elle parle du rapprochement avec la famille, cette recherche de proximité, de liens forts. En plus, parfois, quand on revient, ça vient souvent après des moments de rupture dans la vie.
Ça a été le Covid, notamment.
Le Covid et l'entrée dans la parentalité, qui peuvent être des ruptures aussi positives, mais où on ressent ce besoin de se rapprocher des siens et de pouvoir compter sur une communauté d'entraide. Donc ça, c'est assez fort. Mais juste pour revenir sur le travail, c'est que c'est une évidence que dans les petites villes, on n'a pas la même typologie d'emploi que dans les grandes métropoles, et que du coup, c'est vrai que ça implique de faire des choix. Et pour juste tirer le fil sur ce qu'elle dit sur la surreprésentation des idées peut-être racistes ou du vote RN, enfin je pense qu'on y viendra après, mais ça s'explique aussi par la typologie des emplois, c'est-à-dire que comme on est dans des petites villes où globalement le niveau de diplôme peut être plus faible, il y a une surreprésentation des emplois contraints, il y a donc une moins grande mixité sociale et donc une hégémonie en fait de ces idées d'extrême droite qui peuvent arriver très vite. Là où dans les grandes métropoles, il y a plus de monde, il y a plus de mixité et donc de diversité aussi d'opinions politiques.
Juliette Rousseau, vous qui avez écrit entre autres Pecnode aux éditions Cambourakis, comment est-ce qu'on est perçu quand on vient? On est encore chez soi ou on est devenu un étranger?
Alors moi, j'ai une chance, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est que je n'ai jamais été perçue comme étant chez moi, là où j'ai grandi. Et donc, finalement, de revenir, je pense que disons que l'accueil est mitigé. Les personnes avec qui j'ai partagé un bout de ma vie sont toujours là, pour celles qui sont pas parties en tout cas. Et puis celles et ceux qui ont toujours considéré que ma famille n'était pas de là n'ont pas non plus changé d'avis. Moi, effectivement, je pense que moi j'ai la chance d'avoir un métier intellectuel qui me permet de travailler à peu près d'où je veux, et en même temps j'ai la chance de pouvoir habiter dans un endroit qui ne me coûte pas trop cher et qui me permet d'avoir un métier intellectuel. Donc il y a un petit peu cette je pense que dans les raisons du retour, il y a aussi, je pense, à une autre étude de sociologie qui s'appelle Des femmes qui tiennent la campagne, qui explique très bien pourquoi finalement le choix de rester ou de revenir pour certaines femmes, c'est aussi des compromis matériels, c'est-à-dire on a parlé du lien à la famille, du soutien familial quand on a des enfants, mais c'est aussi, dans mon cas, et je pense que dans le cas de beaucoup d'autres, c'est aussi l'accès au potager des parents, c'est l'accès à un réseau de solidarité matérielle, etc., qui peut rendre la vie un petit peu plus facile.
C'est prendre soin aussi de ses parents. Mmh. Pendant ce temps-là, c'est vos parents qui prennent soin de vos enfants. Mais c'est aussi revenir, comme le disait Emeline, dans un endroit qui a peut-être... souffert d'une forme de manque d'ouverture, ce qu'elle nous dit sur la dimension, voilà, du racisme et du vote du Rassemblement National, vous le vivez toutes les deux. Est-ce que ça veut dire que c'est à cet endroit-là qu'il faut retisser le lien entre la gauche, dont vous vous sentez proche l'une et l'autre, mais qui souffre d'une forme d'impensée sur ces questions et sur ces ruralités?
Oui, je pense qu'effectivement, alors ça pour le coup, moi j'ai beaucoup essayé de le défendre dans la période des dernières législatives, l'idée que la gauche avait du travail à faire pour essayer de regarder avec moins de mépris les territoires ruraux et essayer de les comprendre dans leurs spécificités. Pour celles et ceux qui reviennent, mais aussi celles et ceux qui viennent s'installer, moi je suis très critique vis-à-vis du regard qu'on peut poser sur justement une espèce de légitimité supérieure qui viendrait avec le temps, avec le fait d'avoir des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, parce qu'on voit bien quel ordre social ça vient
la dimension de l'héritage et d'une forme de légitimité à être, quoi.
Voilà, et qui, on va dire, s'accompagne assez facilement d'une forme de xénophobie qui peut aller vers le racialisme si tant est qu'on la nourrisse d'idées comme celle du Rassemblement National. Et moi, j'ai vraiment envie de m'opposer à ça, de m'opposer en tout cas à l'idée qu'il y aurait que les zones rurales seraient l'incarnation d'une espèce, alors évidemment d'une espèce de France éternelle, mais aussi de territoires, comme on l'a dit, profonds, où les gens seraient plus ancrés qu'ailleurs et qui seraient finalement plus immobiles. Je pense que il y a notamment, et je le dis d'autant plus fortement que je suis autrice et éditrice, mais pour moi, par exemple, le fait de défendre une vie culturelle dans les zones rurales, de défendre à la fois l'histoire spécifique, mais aussi l'histoire en mouvement de ces espaces-là, d'y raconter l'histoire de l'immigration, puisqu'en fait, voilà, on l'a entendu avec le témoignage tout à l'heure, en fait, il y a toute une partie de l'immigration qui se joue aussi dans des territoires plus ruraux, de raconter aussi l'histoire de gauche des campagnes, parce qu'il y en a une, l'histoire des luttes paysannes de gauche, etc. C'est-à-dire, en fait, de refuser ce récit que moi, je trouve souvent corroboré et par la droite et par la gauche, qui viendrait dire, finalement, que les campagnes seraient, par essence, des territoires réactionnaires et donc des territoires de droite, voire d'extrême droite.
Pauline Rochard, comment on fait, justement, pour retravailler ce lien et pour ne pas alimenter ces fractures entre néo-ruraux, dont vous faites peut-être partie dans le regard de ceux qui sont restés, alors que vous êtes du coin, si je puis dire?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Juliette. Et peut-être que ce qui est intéressant, c'est... de se reconcentrer sur ce qui nous lie plutôt que de toujours alimenter ce qui nous oppose, parce que ça a été c'est largement documenté ce qui alimente les fractures, etc. Sauf que le risque, c'est que ce récit devienne performatif à force d'appuyer sur les oppositions, les modes de vie qui seraient différents, les opinions qui seraient différentes. On aurait intrinsèquement pas les mêmes visions, les mêmes façons de voir le monde. En fait, on alimente ce il y a eux, il y a nous. Et je pense que de retrouver un peu de nuance là-dedans et de, en fait, raconter la complexité des trajectoires, de dire que ça n'existe pas, les gens qui ne bougent jamais ou les gens qui sont juste tout le temps ailleurs et qui sont d'éternels nomades. Enfin, on a tous un lien
et
avec...
Everywhere et... Non, les anywhere et les...
Ouais, les somewhere et les somewhere. Et les anywhere, voilà. cette dichotomie qui fait le sel hein, de l'extrême droite. Parce que voilà, ils instrumentalisent cette vision-là. Et du coup, moi, c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de voir qu'il y a encore plein d'endroits, plein d'espaces où il est possible de refaire du commun pour justement renouer ce lien, apprendre à revivre des choses ensemble, pour ensuite s'écouter, discuter, débattre, apprendre à vivre dans le désaccord. Parce que je pense que l'idée, notamment politique, quand on parle de la gauche et de la droite, oui, je suis d'accord, la gauche a délaissé ses territoires, ou en tout cas a surtout laissé l'espace à la droite et à ses récits. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que elle a pas cultivé aussi, elle a pas valorisé en fait pourquoi on se sentait appartenir à quelque part et ce qui mettait encore les gens en lien.
Alors justement, on va continuer sur le politique. Depuis son élection en 2021, Fabien Bazin, le président socialiste du département, a entamé un tour de la Nièvre pour engager un dialogue avec les Nivernais, jeunes et moins jeunes. L'idée, se taire d'abord et écouter les habitants, comme il me le relate. De cette phase d'écoute et de recueil, ont émergé 444 propositions formulées par les habitants. Et ce soir-là, il est de retour avec son équipe à Clamecy, à 1h30 de Nevers, pour à nouveau entendre les jeunes Nivernais. On écoute.
Vous allez avoir la possibilité là de discuter, si vous le souhaitez, avec les représentants de la fameuse bande des moins jeunes. C'est Blandine qui a trouvé cette expression. Donc, si les plus anciens là qui ont un peu de temps à donner peuvent se lever, qui vous repèrent, Marcel, il est où? Il est parti. Marcel, debout. Les trois ou quatre là, si vous avez besoin d'un conseil pour faire un CV, pour trouver un logement, juste pour parler, vous allez les voir et ils vous donneront un coup de main. Et la dernière chose que je voudrais vous dire et qui est vraiment très chouette, vous êtes utile, on a besoin de vous, vraiment besoin de vous, ce département a besoin de vous, et plus vous vous engagerez, plus vous verrez, vous aurez un retour pour vous-même. Merci beaucoup, très bonne soirée.
On a les moyens de proposer un chemin. Tout ce que le conseil départemental, tout ce que le département peut faire, il va essayer de le faire, il le fait. On a cette fierté-là. Mais on sait aussi ce que l'État devrait faire, ce que la région devrait faire, ce que l'Europe devrait faire. Au fond, on plaide pour un droit au village, comme il y a eu un droit à la ville. Ça mériterait probablement une loi de la République. Il faudrait que ce soit gravé dans le marbre et que derrière, on mette en place... En réponse, en tout cas, à ces orientations générales, une réalité de terrain. Donc la question de la ruralité, aujourd'hui, elle est au fond celle de la modernité. Moi, je ne sais pas comment on fait pour vivre dans une métropole comme Paris. Je suis un ancien Parisien.
Mais pour autant, les jeunes ont du mal à se projeter et voient bien que les opportunités ne sont pas réelles.
Je crois qu'il n'y a pas de différence entre la jeunesse rurale et la jeunesse urbaine. Dans les quartiers, c'est compliqué d'accéder aussi aux services publics. Puis jamais oublier que la Nièvre, compte 3000 étudiants supérieurs, on est le deuxième, après Dijon, bassin étudiant de la région. Il n'y a pas de sujet, finalement, par rapport aux études.
On voit pourtant que le département sort de cet hiver démographique. Est-ce que ça veut dire que... Il y a quelque chose qui a changé.
L'accès au service public lui-même s'est ces 15 dernières années dégradé avec la régularité d'un métronome. Et donc, tant qu'on ne fera pas un effort partout et tout le temps d'écoute de tous ceux qui vivent dans ce pays, et notamment de ceux qui ont le moins la parole, tant qu'on les écoutera pas, et tant qu'ils ne comprendront pas ce que disent les hommes publics, quels qu'ils soient, c'est Rosin Vallon qui disait, le Rassemblement National, il a un discours, les gens comprennent. Tous les autres, ils ne comprennent plus. Et c'est vrai que cet entre-soi, cette manière de cette novlangue administrative, ces anglicismes permanents, fait qu'on est, on s'éloigne totalement des gens. On ne changera les choses que si on les fait ensemble, si chacun prend sa part. Et c'est avec ce travail-là qu'on pourra, à mon sens, renverser des montagnes.
Et cette fois-ci, c'est Nicolas Bourdoun, le maire PCF de Clamecy, qu'on va entendre sur le perron. Je lui ai demandé de porter un regard sur la parole des jeunes gens qui étaient là ce soir.
C'est un fait de jeunesse. On n'est jamais bien là où on a grandi, là où on est né. On veut explorer le monde, on veut explorer des ailleurs. Et après quoi, on se rend compte, au bout d'un certain cheminement de vie, que finalement, on n'était jamais aussi bien qu'à l'endroit où on a grandi. Et en général, et c'est ce qu'on constate localement, régulièrement, à partir de 35-40 ans, des jeunes qui sont partis forcément à 18 ans pour faire leurs études, pour commencer à avoir une vie professionnelle, nous les voyons revenir sur nos territoires et nous faire bénéficier du coup de les compétences qu'elles ont acquises par ailleurs. Essayer la Nièvre, c'est l'adopter, on l'oublie jamais, en vérité. Parce que finalement, nous sommes la grande couronne de la grande couronne parisienne, que le télétravail s'est énormément développé, c'est pour nous une chance, qu'on a un cadre de vie qui est particulièrement préservé, qu'on ait un département à taille humaine, finalement 200 000 habitants, tout le monde se connaît, quelque chose est en train de se passer, et effectivement, la Nièvre est un territoire qui commence enfin à se repeupler.
Et l'enjeu pour retenir ces populations, monsieur le maire, c'est quoi ?
C'est la mobilité, bien évidemment. C'est une liaison naturelle entre la capitale et nos territoires. C'est le maintien des petites lignes de train qui permettent effectivement à toute cette population francilienne de venir au plus près de nos populations, donc notamment aller de Paris à Clamecy ou à Corbigny, donc qui est la porte d'entrée du Morvan, ou alors aller de Paris à Avallon. Ces lignes sont fragilisées du fait effectivement d'investissements nécessaires. La région, dans un contexte budgétaire contraint, en fait, a imaginé à un moment ne pas avoir les moyens effectivement de réhabiliter ces nouvelles lignes, ces petites lignes et de les moderniser. Bien évidemment, nous l'avons appris, bien évidemment, nous nous sommes mobilisés. La région a reculé pour quelques mois et nous l'accompagnons maintenant pour réussir à tordre le bras à l'État pour que l'État mette les moyens nécessaires au maintien au moins des lignes ferroviaires existantes.
Alors on a entendu beaucoup de choses, mais la question centrale pour changer de regard sur ces espaces et retenir, ou tout du moins peut-être faire revenir ceux qui souhaiteraient s'installer durablement, c'est la question des services publics. Pauline Rochard, ça vous l'avez entendu, cette question-là, dans les entretiens que vous avez menés?
Bah oui, fatalement, quand on revient dans des petites communes ou des zones rurales, le fait qu'il y ait moins facilement accès aux services publics, ça entrave le quotidien et la facilité. Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'il dit quand il dit faut écouter les gens, il faut écouter leurs récits, etc. Moi, je pense qu'une des peut-être des premières choses à faire, alors ça prend du temps, mais c'est apprendre à vivre ensemble, accepter qu'il y ait des phases où on est en dissonance, on est en désaccord, on ne pense pas à la même chose. On ne peut pas forcément chercher à convaincre l'autre, à convaincre son voisin, ses voisins avec qui on fait des choses, on est dans des logiques d'entraide, on va tenir une buvette à la fête locale, on va organiser la kermesse, on va organiser un tournoi de hand, enfin que sais-je, on va faire des choses ensemble. Du coup, on va nouer du lien. Donc, il y a un lien affectif qui va se nouer entre les gens, parmi le groupe. Et alors, une fois que ce lien est construit, on va pouvoir commencer à discuter, à débattre, et puis du coup à accepter le désaccord et potentiellement à se transformer l'un et l'autre. Mais je pense que avoir toujours en tête cette idée de il va falloir convaincre, et si on n'arrive pas à convaincre, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon récit, on n'a pas trouvé le bon angle. C'est
L'objectif, Juliette Rousseau, c'est de faire ensemble. C'est comme ça aussi que...
Oui, mais c'est-à-dire, en fait, là où je suis tout à fait d'accord avec Pauline, c'est que je pense que le problème, mais qu'on parle de ruralité, de campagne ou de quartier populaire, on a toujours face à nous des discours qui reposent sur des aspirations gestionnaires ou de représentation, et qui du coup ont besoin de fabriquer des catégories qui souvent du coup mènent à des formes d'essentialisation, où l'enjeu c'est de prendre les gens tous ensemble et de les faire adhérer à une chose ou l'autre, et qui va, je pense, à mon avis, à l'encontre en tout cas de... En tout cas, ce que moi je défends, c'est oui, faire ensemble, mais du coup, faire ensemble, ça implique de reconnaître à la fois les spécificités territoriales et que du pouvoir collectif doit émerger depuis les territoires. Et donc la question, c'est comment il émerge ? de quelles conditions il a besoin pour pouvoir exister, pour pouvoir émerger. Donc faire ensemble, oui, et en même temps, quand je t'entendais, Pauline, faire ensemble tout à fait, et en acceptant aussi qu'il y a des gens avec qui on ne sera pas d'accord.
Voilà.
Parce que la question du racisme, par exemple, moi, dans la campagne où je vis et où j'ai grandi, elle n'est absolument pas nouvelle. Moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, le RN n'est plus un tabou, alors qu'il l'était avant. Mais la base idéologique qui peut motiver un vote RN, elle n'est pas tellement nouvelle. Et donc, je trouve qu'il y a là quelque chose aussi qu'il faut peut-être dire. Pour moi, ça n'est pas méprisant que de le dire. C'est de considérer qu'il y a un travail idéologique à faire. Il y a une bataille aussi, politique et culturelle, à mener. Et il faut assumer aussi cette dimension-là de bataille, je crois.
Alors, on l'a entendu tout au long de cette émission, la jeunesse en milieu rural aujourd'hui ne se laisse enfermer dans aucune définition et renvoie à une infinité de réalités très loin des stéréotypes sur le monde agricole. Cette pluralité se retrouve dans les imaginaires du monde rural, dans la culture. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à toutes et à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez justement sur cette image de la jeunesse rurale d'une époque à l'autre.
Oui Nora, une image effectivement plus complexe que les clichés associés à l'agriculture notamment. D'abord parce que jusqu'à une époque pas si éloignée de nous, jusqu'au début ou au milieu du XXe siècle, la population française était majoritairement rurale et cet état de fait se retrouvait dans les œuvres de fiction inspirées de la vie rurale. Pendant longtemps, la campagne n'était pas un endroit à part, elle était le cadre de la vie, de toute la vie, avec ses peines, ses joies et ses émerveillements. Comme ici dans cette lecture de La vie d'un simple d'Émile Guillaumin qui racontait la jeunesse d'un paysan métayer au XIXe siècle.
Je me souviens bien que même pour le gamin que j'étais, labreur semblait magnifique les jours de beau temps, quand j'y arrivais le matin. Les pieds nus, dans des sabots fendillés sans forme, la blouse et la culotte trempées, les jambes déchirées par les ronces, j'allais et venais tout autour de mon domaine, jusqu'au moment où, fatigué, je m'asseyais sur une grosse pierre pour manger un quignon de pain noir et un bout de fromage.
Mais les choses changent radicalement au mi-temps du siècle dernier. L'exode rural s'accélère et l'on craint désormais pour l'avenir de la jeunesse rurale qu'il s'agit de sauver du désœuvrement. En 1955, le ministère de l'Agriculture organise une exposition avec notamment des photographies dans le cadre du Salon de l'Agriculture à Paris, avec un objectif pédagogique de formation pour les jeunes agriculteurs qui devront trouver un travail différent de celui de leurs parents et qui s'en inquiètent.
Ils sont inquiets de nombreux problèmes. Parmi tous ces problèmes, il y en a un qui les préoccupe tout particulièrement. C'est le problème de leur installation, celui de la reprise d'une ferme.
Et alors, quelles possibilités leur offrez-vous ?
Eh bien, c'est un petit peu le but de cette exposition. Montrer que la formation doit d'abord s'adresser à ceux qui feront des exploitants agricoles et ensuite trouver des possibilités d'emploi pour les jeunes dans nos milieux ruraux.
Et plus près de nous, c'est Raymond Depardon qui apporte sa pierre aux représentations de la ruralité avec une série de 3 documentaires intitulés « Profil paysan » au début des années 2000. Quelques années plus tôt, il se souvenait de sa propre jeunesse à la campagne qu'il évoquait ici en 1993 au micro de nos confrères de RFI.
J'étais très près de la ville, donc j'étais à l'école avec des gens de la ville et j'avais ce complexe toujours, mais je disais, je m'en souviens toujours, si vous n'avez pas de paysans, vous mangeriez des clous. Parce que je me bagarrais avec les petits garçons de la ville. Mon père était du Massif Central, ma mère de la Bresse. Donc voilà, je suis vraiment, on peut dire, typique français. J'ai quitté cette ferme à l'âge de 16 ans. En fait, il y a quand même il y a peut-être des séparations. Il y a des gens qui vivent en ville et des gens qui vivent à la campagne.
Dans l'objectif de Raymond Depardon, donc dans ces 3 documentaires, la jeunesse rurale apparaît, mais en creux ou en négatif, car elle a fui justement ce monde rural qui s'est transformé. Alors Pauline Rochard et Juliette Rousseau, 3 archives, 3 chroniques de la vie de la jeunesse rurale. Le récit peut-être au départ d'un émerveillement des jeunes années, avec ce récit tiré d'un livre d'Émile Guillaumin. Le récit d'un monde en transition, le témoignage d'un monde disparu. Ces dernières années, le cinéma s'intéresse aux nouvelles ruralités avec des films dont nous avons parlé dans cette émission, notamment La Pampa et Vin Dieu. Est-ce qu'il y avait urgence à dire qu'il reste quelque chose au-delà d'un constat un petit peu misérabiliste sur la ruralité et qu'on vit encore toute sa vie dans toutes ses épaisseurs dans la ruralité aujourd'hui?
Moi, je suis toujours un peu embêtée avec ces trucs de ancien, nouveau, parce que finalement, c'est toujours le récit de la modernité qui nous piège, quoi. Ce que je remarque, en revanche, c'est que, bon, déjà, c'est qu'il n'y a pas de femmes dans ces représentations, ce qui en dit long, parce qu'effectivement, la ruralité et les femmes, c'est quand même un vrai sujet, et on est peu à, même si on est de plus en plus nombreuses, on est quand même peu à être représentées et à prendre la parole là-dessus. J'ai l'impression que peut-être ce qui pourrait être important, et je vais reparler de la campagne de laquelle je suis issue, je préfère le redire et le redire, parce que ça me paraît important de préciser cette situation spécifique qui est la mienne. Je crois que quand on aura réussi à arrêter de vouloir à tout prix être nous aussi modernes, au sens rejoindre cette espèce d'idéal fantasmé qu'incarne la ville, peut-être on pourra alors vraiment commencer à développer nos propres modalités d'existence collective sur les territoires qui sont les nôtres.
Pauline Rochat.
Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, vous avez cité les films récents qui sont sortis et qui ont beaucoup animé le débat public. Est-ce qu'on donne une nouvelle image de la campagne, etc. Moi, j'ai pas le sentiment que les gens l'aient perçu comme ça. Ce qui était intéressant, c'était plutôt que ils se sentaient pour une fois, je crois, effectivement représentés dans ce qu'ils vivaient. Donc, dans Vin Dieu, notamment, voir des fêtes locales. Sur le grand écran et puis la vie quotidienne d'un jeune qui cherche du boulot je trouve que ce qui est intéressant c'est de repartir de ce que vivent les gens et de parce que là les témoignages qu'on entend et parfois on a tendance à figer un peu à partager beaucoup de représentations d'un temps ancien comme si effectivement ça vient un peu alimenter le discours de la campagne se fige dans un temps comme idéal. Voilà, où on parle beaucoup du paysage, de ce rapport, ce qui est vrai, mais il y a aussi d'autres histoires à raconter, d'aspirations différentes, et je crois que ces films-là, ils contribuent en partie.
Peut-être juste dire un truc sur le temps qui est hyper important, je crois, et qu'on a tendance à oublier. Le temps des cultures paysannes est un temps cyclique. Et c'est inhérent au rapport à la terre. Et donc, effectivement, la représentation du temps, c'est un espèce de renouvellement permanent où on revient en permanence par les saisons, aux mêmes étapes, tout en étant effectivement dans un avancement, puisque le temps passe. Et la ville, c'est une rupture que moi j'ai vécue, et je pense que beaucoup de jeunes ruraux vivent quand on arrive en ville, le temps tout d'un coup devient linéaire, il n'y a plus de retour. Et ça, je crois que c'est une grosse différence, et effectivement, cette linéarité, c'est aussi ce récit de la modernité, je crois.
On est dans un imaginaire et dans une réalité qui est celle d'une succession de crises en ce qui concerne l'agriculture. Rappelons juste que l'agriculture n'est pas l'apanage en fait de la ruralité.
Totalement.
Et il y a une phrase moi qui m'interpellait dans ce que nous disait tout à l'heure Fabien Bazin, ce qu'on a entendu. Il parlait d'un droit au village au même titre qu'on parle d'un droit à la ville. Est-ce que c'est ça peut-être qu'il va falloir poser comme préalable pour faire en sorte que ces stigmates dont on a parlé tout au long de cette émission et cette réinvention du regard qu'on pose parce que ces ruralités sont désirables, est-ce que c'est ça qu'il va falloir bouger peut-être ?
Oui, je pense que il faudrait peut-être préciser ce qu'on entend par droit au village, mais en tout cas, je pense que de repenser une vie, encore une fois, qui n'est pas tourner vers l'extérieur, que ça soit dans ce qu'elle produit ou dans ce à quoi elle peut aspirer, mais une vie qui est bien en capacité de produire à l'endroit où elle est, ce qui permet la subsistance, et je parle pas juste en termes alimentaires ou économiques, je parle aussi en termes culturels, etc. Oui, je pense qu'effectivement, ça fait partie des enjeux. Ça ne fonctionnera, encore une fois, que si on arrive à recentrer le regard ou le décentrer, je sais pas comment il faut le dire, tout dépend d'où on se situe, mais en tout cas de faire en sorte que ça reparte des endroits qui sont premièrement concernés par ça. Mmh.
Pauline, rapidement.
Je pense qu'il y a effectivement un enjeu à développer l'accessibilité à la fois aux transports en commun, à la culture, aux emplois, pouvoir en fait vivre là où on a envie de vivre et ne pas se sentir obligé de partir, je pense que oui, c'est...
Devenir un espace du choix, quoi.
Oui, exactement.
Voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin. Faire en sorte que grandir à la campagne devienne aussi un espace du choix. Merci à toutes les deux. Je rappelle vos ouvrages. Juliette Rousseau, Pecnode, chez Cambourakis. Ceux qui reviennent de Pauline Rochard, c'est chez Payot. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Margot Page qui l'a réalisée. À la technique, c'était François Saint-Jour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très belle semaine, évidemment, sur France Culture.